Bonjour à tous, merci à vous d'être là. Je voudrais commencer par remercier très chaleureusement Molly Przeworski pour me donner la possibilité de vous présenter ce séminaire aujourd'hui. Donc je suis vraiment ravie d'être ici et surtout de vous parler d'un sujet qui me passionne, qui est comment les populations humaines se sont adaptées à la consommation de lait. Donc c'est effectivement souvent un cas d'école qui est pris comme exemple typique d'adaptation et de sélection naturelle, puisque c'est un cas de sélection naturelle particulièrement fort, et en plus un cas emblématique de coévolution entre gènes et culture. Et pourtant, il reste un certain nombre de zones d'ombre que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui. Donc tout part à la base de l'observation qu'il y a certains individus, ou plus largement certaines populations, qui digèrent très bien le lait à l'âge adulte, et d'autres individus ou populations qui digèrent mal le lait à l'âge adulte. Alors, qu'est-ce que je veux dire par digérer le lait? En fait, il s'agit d'assimiler ou non le sucre qui est dans le lait, qui s'appelle le lactose. Le seul glucide, en effet, qui est disponible dans le lait est sous forme de lactose. Et ce lactose n'est pas digestible tel quel, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable, en tant que mammifère, d'absorber le lactose au niveau de la paroi intestinale pour avoir ce lactose dans le sang et donc bénéficier de cet apport en sucre. Donc, pour bénéficier de l'apport en sucre du lait, il faut l'intervention d'une enzyme qui s'appelle la lactase, et qui va hydrolyser, c'est-à-dire couper cette grosse molécule de sucre en deux molécules plus petites, le glucose et le galactose. Et ces deux molécules, on va pouvoir les absorber au niveau de la paroi intestinale et donc que le glucose se retrouve dans la circulation sanguine. Donc chez tous les mammifères, après le sevrage, la lactase n'est plus exprimée puisqu'il n'y a aucun mammifère adulte qui boit du lait, à part évidemment chez l'homme. Et donc, chez l'homme, il y a ce phénotype qu'on appelle de persistance de la lactase. Je vais écrire un petit peu partout PL dans ces slides. Donc, ça correspond à persistance de la lactase. Et donc, c'est une observation qui date maintenant, je pense, à peu près des années 60, où en fait, si ici, je vous montre la prévalence d'hypolactasie, donc c'est un peu dans le sens opposé de l'intuition, mais bon, en gros, là, c'est le pourcentage de gens qui ne digèrent pas le lait à l'âge adulte. Le pattern, entre guillemets, normal, ça va être que les individus, quand ils sont jeunes, là, c'est l'âge, digèrent le lait, expriment la lactase, et au fur et à mesure de la croissance, les individus ne vont plus exprimer la lactase pour, à l'âge adulte, avoir une majorité des individus dans la population qui n'expriment plus la lactase. Et donc ça, c'est ce qu'on voit dans ces populations d'Amérique du Sud, est-asiatique ou certaines populations africaines. Et ce que vous voyez également, c'est trois populations dont le patron d'expression de la lactase au cours de l'âge est très différent des autres. Et c'est trois populations d'ascendance génétique européenne, des Anglo-Américains, des Estoniens et des Finlandais. Et en fait, le pattern ne change pas beaucoup au cours de la vie. Et on arrive à l'âge adulte avec encore 80 à 90% des individus qui digèrent le lait, c'est-à-dire qui expriment la lactase. Alors, comment on sait si les individus expriment ou non la lactase? L'approche la plus directe, et entre guillemets la plus simple, la plus directe, c'est de faire une biopsie intestinale, donc de récupérer des cellules intestinales et de tester directement l'activité enzymatique sur ces cellules. Évidemment, c'est assez invasif, donc en fait, il y a tout un tas d'approches indirectes, beaucoup plus que ce que je vais vous présenter, qui ont été développées pour savoir si les individus sont ou non persistants à la lactase. Donc une approche indirecte qui est quand même relativement simple, c'est de mesurer en fait après une charge de 50 g de lactose en poudre qu'on donne aux individus à jeun, ça correspond environ à un peu plus d'un litre de lait de vache, on va regarder dans le sang s'il y a une augmentation du taux de glucose. Donc là, ça va nous dire directement est-ce que le lactose a été transformé en glucose ou non. Donc c'est un marqueur qui reflète les individus lactase persistants. Et il y a d'autres marqueurs qui sont disponibles qui, eux, vont nous dire si les individus sont lactase non persistants. Et en fait, c'est tout un tas de marqueurs qui nous disent est-ce qu'on retrouve du lactose dans le côlon. En effet, si le lactose n'est pas digéré par la lactase humaine de l'hôte au niveau de l'intestin grêle, il va finir ici dans le côlon en orangé. Et donc ça va avoir deux effets pour la physiologie de l'hôte. Le premier effet, c'est que comme le lactose attire à lui des molécules d'eau, ça entraîne un symptôme de diarrhée. Et le deuxième effet, c'est que le lactose qui va se retrouver dans le côlon est en présence de tout un tas de bactéries intestinales qui, elles, ont les outils génétiques pour digérer le lactose. Donc ces bactéries vont fermenter le lactose et en conséquence, on va avoir un dégagement de CO2 et de H2, d'hydrogène, et une acidification du milieu. Et donc ça entraîne des gaz, des flatulences et des crampes abdominales. Donc, deux phénotypes qui sont utilisés pour essayer de savoir qui est lactase non persistant, c'est notamment de mesurer le taux d'hydrogène dans l'air expiré après toujours cette charge de 50 g de lactose. En effet, une fois que les bactéries fermentent produisent de l'hydrogène, ils passent dans la circulation sanguine et ils se retrouvent ensuite dans l'air expiré. Une troisième possibilité, c'est de faire un questionnaire avec des symptômes. On donne 50 grammes de lactose aux gens et on regarde en gros qui se plaint de diarrhée, de crampes intestinales ou d'autres symptômes. Alors souvent, ces trois phénotypes sont utilisés ensemble pour essayer d'avoir une meilleure définition, mais ils ont tous un taux d'erreur différent, une sensibilité différente. Et notamment, les deux derniers ici, le taux d'hydrogène et les symptômes, vont varier énormément en fonction de la composition en bactéries intestinales des individus. Puisqu'on l'a vu ici, ça dépend en fait de si les bactéries ont fermenté ou non le lactose. Donc si on a des bactéries qui sont très efficaces pour fermenter le lactose, on va peut-être avoir moins de diarrhées, parce que le lactose n'a pas le temps de créer un choc osmotique et de créer des diarrhées. Et également, on a des bactéries qui peuvent utiliser le CO2 et l'H2, qui vont elles-mêmes l'utiliser comme source nutritive. Et donc, dans certains cas, on peut avoir une absence de dégagement de H2. Et on voit d'ailleurs dans certaines populations, même s'ils sont lactase non persistant, ils n'ont pas un dégagement de H2 dans la expirée comme attendu. Donc ces symptômes-là vont varier énormément en fonction de la composition des bactéries intestinales. Alors donc tous ces tests phénotypiques ont été utilisés depuis longtemps dans les populations humaines. Et donc là, ce que je vous montre, c'est une carte qu'on a obtenue en 2017 avec une collègue Céline Bon, d'après des données obtenues en 2010, mais qui sont régulièrement actualisées. Donc il y a une base de données sur Internet qui est normalement régulièrement actualisée avec les nouvelles études. Et donc je vous montre, la couleur correspond à la fréquence de persistance de la lactase, avec des fréquences faibles en bleu et des fréquences fortes en rouge. Donc ce qu'on peut déjà noter, c'est ce que disait Molly, c'est qu'effectivement c'est un phénotype minoritaire. Il y a une minorité de gens qui expriment la lactase à l'âge adulte. Ça a été estimé 30%, donc c'est un chiffre qui est beaucoup relayé dans les médias, je suis un peu dubitative quant au chiffre précis, mais en tout cas c'est sûr que c'est une minorité d'individus actuellement. Et la deuxième chose qu'on voit, c'est qu'il y a des fortes disparités géographiques. On voit effectivement les populations où on trouve plus de 70% en fréquence de persistance de la lactase. C'est en Europe du Nord et en Europe centrale. On a quelque chose d'assez homogène, on va dire, sur une aire géographique donnée. Et ensuite, on a des points un peu plus disparates dans l'espace, avec quelque chose de très hétérogène en Afrique et des populations extrêmement proches où cohabitent des gens persistants et non persistants, donc en Afrique de l'Est. On a également quelques points assez forts en prévalence sur la péninsule arabique et également quelques points ici dans le nord de l'Inde et au Pakistan. Alors quand on connaît un petit peu l'ethnographie de ces populations, il y a quelque chose tout de suite qui saute aux yeux, c'est que toutes ces populations quasiment sont des populations d'éleveurs. On a donc les Peuls, les Maasai et autres qui sont des éleveurs de vaches en Afrique, des populations d'éleveurs de chameaux, les Touaregs des peuples Béja et les Bédouins dans la péninsule arabique. Et on a également les populations qui sont les plus persistantes au nord de l'Inde, qui sont en réalité des populations d'éleveurs de buffles. Donc toutes ces populations sont des populations d'éleveurs, à l'exception peut-être quand même de toute cette poche ici de forte fréquence en Europe, puisqu'il s'agit de populations d'agropasteurs, qui sont donc tout autant des populations d'éleveurs que des populations d'agriculteurs. Donc là, on n'est pas sur des populations d'éleveurs nomades, comme dans le reste des populations. Quand on regarde un peu plus formellement la corrélation entre persistance de la lactase et proportion de pastoralisme par population, donc c'est quelque chose qui a été compilé dans un atlas ethnographique par Murdoch dans les années 70, on voit qu'il y a une corrélation significative, là la p-value est de 10-5 avec un coefficient de corrélation de 0,55, donc relativement fort, entre effectivement la proportion de pastoralisme dans la population, à quel point ils sont pastoraux, et la fréquence de persistance à la lactase. Alors depuis quand ces populations sont pastorales? Clairement elles ne l'ont pas toujours été. Et on sait bien que Homo sapiens, à la base, est plutôt un chasseur-cueilleur nomade. Même avant Homo sapiens, on était déjà des peuples de chasseurs-cueilleurs. Et la transition vers d'autres modes de vie que la chasse et la cueillette s'est faite relativement récemment. Quand je dis relativement récemment, c'est aux alentours d'il y a 10 000 ans, donc ce qu'on appelle la révolution néolithique. Donc c'est une transition culturelle majeure où on a vu émerger les premières sociétés d'agropasteurs sédentaires. Donc d'abord une transition d'un mode de vie nomade vers un mode de vie sédentaire et ensuite, très peu de temps après, la domestication d'un grand nombre d'espèces animales et végétales et donc l'émergence de l'agriculture et de l'élevage. Alors ce qui est fascinant par rapport à cette transition culturelle, c'est qu'elle n'a pas eu lieu à un seul endroit sur Terre. Elle a eu lieu dans plusieurs, ce qu'on appelle foyers indépendants, que je vous montre ici sur cette carte. Donc le plus ancien, c'est le foyer au Proche-Orient, qu'on appelle le croissant fertile, où il y a eu la domestication d'un certain nombre d'espèces animales, donc en rouge, dont on peut tirer le lait. Je ne sais pas si vous arrivez bien à lire, mais je vais vous dire ce qu'il y a écrit. Donc, au Proche-Orient, il y a la domestication du mouton, du chèvre et de la vache. Donc, trois espèces dont on peut tirer du lait. Et ce foyer va se diffuser en Europe, va se diffuser vers l'Afrique et se diffuser vers l'Inde. Donc c'est vraiment un foyer extrêmement important et le premier dans le temps. Le deuxième foyer est en Asie de l'Est, mais en fait, il n'y a aucun animal dont on peut tirer du lait, donc domestication du porc et du poulet. Donc ici, aucune société qui sont des éleveurs avec accès à du lait. En Asie du Sud-Est non plus, puisqu'on voit que des noms en vert, c'est donc des espèces végétales. Et sur tout le continent américain non plus, bien qu'il y ait eu un certain nombre de foyers de transition vers l'élevage et l'agriculture indépendants, les seules espèces qui ont été domestiquées sont le lama et l'alpaga, et en fait personne n'a jamais utilisé de lait à partir de ces espèces, apparemment elles en ont assez peu, et donc sur tout le continent américain, on n'a pas de population pastorale à l'époque qui utilise du lait. Et ensuite, le plus récent est le foyer de domestication en Afrique, avec un grand nombre de céréales et une domestication peut-être secondaire ou après contact, de nouveau du bœuf, donc vers 3000 ans avant Jésus-Christ, donc 5000 ans avant aujourd'hui. Donc cette carte, elle datait de 2005, mais je trouvais que visuellement, elle était intéressante. Je vais juste vous rappeler depuis, donc là, c'est un tableau qui a été obtenu en 2017, quelques autres domestications qui ont été mieux documentées entre-temps. Donc on a toujours ce package bœuf, vache, mouton au Proche-Orient. Mais on a également une domestication indépendante de la vache à bosse en Asie du Sud, en Inde en fait. On a ensuite la domestication du cheval en Asie centrale autour d'il y a 6000 ans. Puis du chameau en Asie centrale, et enfin du dromadaire dans la péninsule arabique. Donc là, il y a quand même d'autres espèces dont on voit qu'on a tiré du lait, vache à bosse, cheval, dromadaire et chameau, qui sont un petit peu plus tard par rapport à la domestication, la première domestication de vaches, bœufs et moutons. Donc au vu de ces données, très rapidement dans les années 70, il y a plusieurs auteurs qui ont proposé ce qu'on appelle l'hypothèse historico-culturelle, qui propose donc qu'il y ait eu une coévolution entre gènes et culture. Donc l'idée, c'est que d'abord, on change de mode de production alimentaire, transition de la chasse et de la cueillette vers l'élevage et l'agriculture, et que dans ces sociétés d'éleveurs ou d'agropasteurs, il y a une augmentation en fréquence des individus qui sont lactase persistants, puisqu'ils ont une meilleure fitness. Donc ils vont mieux survivre et ou mieux se reproduire, du fait, là, dans cette hypothèse, qu'il y a un avantage calorique. C'est-à-dire que comme ils arrivent à tirer une source de sucre, de glucides à partir du lait que les autres n'arrivent pas à avoir, ils vont mieux survivre et se reproduire parce qu'ils ont plus une alimentation, on va dire, ils ont eu un nouvel outil pour s'alimenter, on va dire. Donc plus les individus lactase persistants augmentent dans la population, plus on peut incorporer de lait dans l'alimentation, parce que c'est utile à de plus en plus d'individus. Et donc comme ça, il y a une espèce de boucle de rétroaction positive qui fait que gènes et culture se répondent. Alors dans les années 70, on ne connaissait pas du tout la base génétique du trait. D'ailleurs, on ne savait même pas s'il y avait une base génétique. Et pendant 20 ans, entre les années 70 et 90, ça a été débattu très fortement. Est-ce que la persistance de la lactase est génétique ou est-ce que c'est environnemental ? En gros, est-ce que les gens qui expriment la lactase, c'est simplement parce qu'ils ont continué à boire du lait tout au long de leur vie, et donc le corps ayant toujours un influx de lactose continue à exprimer la lactase, ou est-ce que réellement il y a un déterminisme génétique ? Dans les années 90, ça a été clairement montré qu'il y a un déterminisme génétique, mais il a fallu attendre encore 20 ans pour avoir réellement la première base génétique de ce trait, grâce à cette étude de Enata et collaborateurs en 2002, qui sont basées sur 9 familles finlandaises, dont je vous montre ici les pédigrés, avec donc en noir et en blanc les individus persistants et non persistants. Et donc, grâce à cette étude, ils ont pu localiser la mutation d'un C vers un T, qu'on appelle 13910, en raison de sa position par rapport au gène de la lactase. Donc elle est à peu près un peu moins de 14 KB en amont du gène de la lactase, ici, dans l'intron d'un autre gène qui s'appelle MCM6. Et c'est certainement parce qu'elle était aussi loin du gène de la lactase que personne ne l'avait encore trouvé, puisque tout le monde sait qu'on sait vraiment le gène de la lactase est juste à côté. Donc là, elle était un petit peu trop loin. Mais en réalité, moi je trouve que toute cette histoire de persistance de lactase est devenue particulièrement intéressante 5 ans plus tard, grâce à l'étude de Sarah Tichkov, quand on a regardé la base génétique de ce trait dans d'autres populations que des populations européennes, en l'occurrence au Soudan, au Kenya et en Tanzanie, et que cette étude a permis d'identifier que ce n'était pas la mutation 13910 qui sous-tendait ce phénotype dans ces populations, mais qu'il y avait 3 autres mutations associées au phénotype. Donc la mutation 14010 qui est portée ici par les haplotypes en orange et en rouge, donc surtout au Kenya et en Tanzanie. La mutation 13915 qui est portée par les haplotypes en bleu, donc qui se retrouve dans toute cette région mais en faible fréquence. Et la mutation 13907 portée ici par l'haplotype en vert, donc uniquement au Nord-Soudan. Donc du coup, c'est devenu un exemple d'évolution convergente où plusieurs populations qui ont, entre guillemets, les mêmes contraintes sélectives, quelle que soit la raison, ils se mettent à consommer du lait et ils ont une pression de sélection, vont répondre par des solutions moléculaires différentes et trouver des mutations différentes qui vont leur permettre d'avoir la même adaptation d'un point de vue phénotypique. Alors, 10 ans plus tard, qu'en est-il de l'état de nos connaissances par rapport à la base génétique du trait? Il y a une seule autre mutation qui a été ajoutée à cette liste, qui est 14009. Il y a beaucoup d'autres mutations qui ont été proposées, mais ces 5-là sont les seules qui ont été confirmées in vitro comme réellement augmentant l'activité de la lactase dans des expériences de transfection cellulaire. Cependant, on connaît bien mieux la répartition de ces mutations. Donc 13910 qui avait été identifié en Europe est effectivement la mutation qui est associée à ce phénotype dans toute l'Europe, mais aussi en Inde du Nord et également en Afrique de l'Ouest. Donc il y a une zone de répartition assez large. Et au contraire, donc 13915 a été montré comme étant spécifiquement présente dans les populations d'Arabie Saoudite et déborde également dans les populations d'éleveurs de chameaux en Afrique de l'Est. Ces deux-là sont spécifiques de l'Afrique de l'Est et 14010 est trouvé plus largement dans toute l'Afrique du Sud. Alors, donc, confirmé in vitro, qu'est-ce qu'on sait exactement du mécanisme moléculaire? Comment ça marche? En fait, le fait qu'on ait des mutations indépendantes qui soient des mutations gain de fonction, comme ça, c'est pas forcément évident. En fait, ces 5 mutations se trouvent dans cette région ici, enhancer, qui est indispensable pour l'expression de la lactase, avec un certain nombre de rectangles ici qui sont des sites de liaison pour des facteurs de transcription. Alors, ces 3 mutations très proches l'une de l'autre sont précisément dans le site de liaison du facteur de transcription OCT1. Et effectivement, in vitro, ça a été montré que ces 3 mutations permettent une meilleure affinité au facteur de transcription OCT1. Donc, on va imaginer que ces mutations donnent une affinité meilleure pour ce facteur de transcription qui s'accroche mieux à l'ADN et donc que ça va changer la conformation dans la région et donc permettre d'avoir une région plus ouverte et donc d'exprimer le gène de la lactase. Cependant, 14010, il est situé ici, entre ces 2 sites, donc il n'est pas particulièrement dans un site de liaison pour un facteur de transcription, et pourtant il a le même effet. Alors récemment, en 2016, il y a une étude que j'ai trouvée particulièrement intéressante, qui a étudié en fait les marques épigénétiques entre lactase persistant et non persistant. Et ce qu'ils ont montré, c'était qu'entre des haplotypes qui portent le C et le T, donc une seule base d'écart, c'est quand même assez impressionnant. Donc ça, c'est l'état ancestral, la mutation C, où normalement, en fait, avec l'âge et au moment du sevrage, il y a un certain nombre de régions, ces 5-là en l'occurrence, qui deviennent méthylées ou très fortement méthylées, donc l'intensité étant indiquée par l'intensité du bleu. Et donc ces régions-là sont très méthylées, ce qui empêche en fait la lactase d'être exprimée, puisque l'ADN est dans une conformation particulière. Et changement de une paire de bases, et toutes ces régions sont complètement déméthylées. Il y a une très grande différence de méthylation entre les deux. Et du coup, là, toute la région a une conformation différente et la lactase est exprimée tout au long de la vie et plus seulement dans l'enfance. Donc c'est un mécanisme épigénétique, a priori, en tout cas pour la mutation européenne. Reste à voir si c'est le même mécanisme pour la mutation africaine et les autres mutations que je vous ai montrées. Donc l'avantage de connaître la base génétique du trait, en réalité, il y en a plusieurs. Le premier avantage de connaître la base génétique du trait, c'est qu'on peut faire de l'inférence au niveau du phénotype. Si on connaît la base génétique, on n'a plus besoin de faire ces tests de persistance de la lactase qui sont un peu lourds, et on peut directement utiliser les données génétiques. Donc ce que je vous montre ici, c'est une carte où j'ai superposé en rond les mêmes données que je vous ai montrées tout à l'heure de phénotype, avec les croix qui sont en fait l'inférence que j'ai faite à partir des données génétiques. Donc ce qu'on voit, c'est à peu près la même chose, mais avec une meilleure résolution. Donc un gradient quand même très fort, qu'on ne voyait peut-être pas aussi bien avant au niveau de l'Europe, avec des fréquences très fortes en Europe du Nord, et une espèce de ligne au niveau de la France et de l'Italie, où pour tout le pourtour méditerranéen, on a des fréquences qui sont très faibles. En Afrique, à peu près la même chose, avec une très très forte hétérogénéité à l'Est, et par contre en Afrique du Sud, des fréquences assez faibles. Et puis ici, on voit que ces populations qui étaient persistantes à la lactase sont assez restreintes au niveau du nord de l'Inde, et qu'on n'a pas du tout de persistance à la lactase dans le reste de l'Asie de l'Est. Par contre, au niveau de la péninsule arabique, on a quand même maintenant une meilleure couverture, et l'impression qu'effectivement, la plupart des populations dans cette péninsule sont persistantes pour la lactase. Le deuxième avantage de connaître la base génétique du trait, c'est donc qu'on peut faire, on peut déployer tous les outils de la génétique des populations, comme Molly nous en a parlé la semaine dernière et cette semaine pour détecter la sélection naturelle. Et notamment ici, ce que je vous montre, c'est les blocs de déséquilibre de liaison associés à l'allèle associé à la persistance de lactase dans les populations européennes et africaines. Donc ce n'est pas les mêmes mutations, pas dans les mêmes populations. Mais ce qu'on voit dans les 2 cas, c'est qu'il y a un bloc de déséquilibre qui est extrêmement long dans les 2 populations, ce qui veut dire qu'il y a eu peu de temps pour la recombinaison de casser ces haplotypes, et donc ce qui veut dire que cette mutation a augmenté en fréquence de manière assez rapide. Et en fait, tellement rapide que c'est incompatible avec de la dérive génétique, elle n'a pas pu augmenter lentement en fréquence, elle a forcément augmenté rapidement. Également, quand on étudie la différenciation entre populations, on peut montrer formellement que les écarts de prévalence entre populations ne sont pas compatibles avec la dérive génétique, et on doit invoquer de la sélection naturelle pour expliquer ces patrons de diversité génétique. Donc il existe un avantage sélectif, déjà c'est sûr, local, puisque pas dans toutes les populations, à être lactase persistant. La deuxième chose qu'on peut faire avec ces données, c'est d'obtenir l'âge à laquelle ces mutations ont commencé à être sélectionnées. Et donc, ce qu'on voit, c'est que c'est entre 5 et 10 000 ans en Europe, 3 et 7 000 ans en Afrique et aux alentours de 4 000 ans en Arabie Saoudite. Donc, ça coïncide très bien avec ce que je vous ai montré de la révolution néolithique, c'est-à-dire de manière plus précoce en Europe et de manière un peu plus tardive en Afrique et en Arabie Saoudite. Il y a une étude qui a également tenté de localiser d'un point de vue géographique où cette mutation était apparue. Donc de Itan et Toll en 2009. Donc ils ont montré qu'eux, ils l'ont daté il y a 7500 ans, précisément dans cette région, là, avec des courbes de densité de probabilité. Et donc à partir de ces résultats, ils ont proposé l'hypothèse que cette mutation était arrivée et avait été sélectionnée en Europe suite en fait à la migration des agriculteurs du Proche-Orient. Donc si vous étiez là au talk de David Reich la semaine dernière, il nous a bien expliqué avec les données d'ADN ancien que ce qu'on voit, c'est que les premiers agriculteurs du Néolithique au Proche-Orient ont ensuite migré par une diffusion démique en Anatolie puis en Europe et ont colonisé en fait l'Europe par deux courants. Le premier courant le long du Danube qui est appelée la culture rubanée, et un deuxième courant le long du pourtour méditerranéen qui est appelée la culture cardiale. Et en fait, cette migration dans cette zone ici en verte correspond exactement à 7500 ans et matche très bien également avec la localisation qui a été trouvée. Donc ces auteurs ont proposé que la mutation européenne était arrivée en Europe avec la migration des premiers agriculteurs venus du Proche-Orient. Enfin, une autre chose qu'on peut faire avec la base génétique du trait, c'est estimer l'intensité de la sélection, à quel point c'était avantageux de porter cette mutation. Donc, c'est-à-dire calculer les coefficients de sélection. Donc, ce que je vous montre ici, c'est pour différentes études que j'ai... je vous ai compilé les résultats de différentes études. En bleu, les populations européennes, en rouge, africaines et en verte, d'Arabie Saoudite. Et bien que les intervalles de confiance sont assez larges, hein, on n'a pas forcément une bonne estimation précise de ces coefficients de sélection, on peut dire en gros que ces coefficients sont entre 3 et 6%. Donc ça vous parle peut-être pas, mais entre 3 et 6%, c'est quand même extrêmement fort comme coefficient de sélection. C'est également ce que disait Molly dans l'introduction. Et c'est pour ça que cet exemple en fait, a été autant montré comme exemple cas d'école, parce que c'est un des coefficients les plus forts qui a été identifié dans le génome humain. Et en fait, il est aussi fort que d'autres exemples d'adaptation plutôt à des maladies infectieuses, type paludisme ou autre. Donc immédiatement, en fait, ces coefficients de sélection très forts ont tout de suite entraîné la question de savoir pourquoi c'est si bénéfique d'être lactase persistant. En fait, c'est pas si intuitif que ça, que simplement avoir une nouvelle source alimentaire donne un avantage à la survie ou à la reproduction si important. Donc il y a eu beaucoup de débats sur la nature exacte des pressions de sélection que je vais vous présenter. Mais ce n'est pas la seule question en suspens dans cette histoire. Il y a un autre pattern qui est un peu étonnant, c'est effectivement le fait que les fréquences soient beaucoup plus importantes en Europe du Nord par rapport à l'Europe du Sud, alors que je vous ai expliqué qu'a priori, les premiers agriculteurs viennent du Sud, ont migré du Sud vers le Nord, donc on ne s'attendrait pas forcément à ce que les prévalences soient beaucoup plus importantes comme elles le sont ici autour de la mer Baltique, et pas du tout dans ce coin-là et dans les Balkans, qui est a priori là où il y a eu la première arrivée des agriculteurs. Et enfin, la dernière question qui est en fait la question à travers laquelle je me suis intéressée à toutes ces études, c'est qu'en est-il des éleveurs d'Asie centrale qui actuellement, il y a une étude de l'année dernière qui a montré qu'en Mongolie, en été, les individus dérivent à peu près 30% de leur apport calorique en produits laitiers. Donc c'est quand même vraiment conséquent. Et en fait, quand j'ai séparé les populations entre le continent africain et le continent eurasiatique, ce qu'on voit, c'est que la corrélation entre pastoralisme et persistance de la lactase, elle est toujours très bonne en Afrique et très significative. Par contre, en Eurasie, il n'y a plus rien du tout comme corrélation. Et c'est évidemment pas significatif. Et donc ça, c'est à la fois dû à ces populations européennes qui sont des populations d'agropasteurs, qui sont très fortement persistants à la lactase alors que ce n'est pas des éleveurs stricts, mais aussi à ces populations très fortement pastorales. Donc ici, il s'agit d'une population mongole et d'une population kazakh qui habitent actuellement en Chine, qui ont des fréquences faibles alors que ce sont des populations bien connues pour être des éleveurs. Alors, par rapport à la nature des pressions de sélection, donc je vous ai dit que ce n'était pas si clair que ça, pourquoi le fait d'arriver à avoir une nouvelle source d'aliments est si avantageux pour les populations humaines. Donc on a dit qu'effectivement le lactose était une nouvelle source de glucides, mais certainement ce n'était pas la seule source de glucides disponible. Et donc on se demande comment ça se fait que c'est entraîné un tel avantage sélectif. D'autant plus qu'au moment de la domestication, les quantités de lait étaient certainement limitées. On était très loin des vaches laitières actuelles, donc on ne pouvait pas dériver des quantités astronomiques de lait à partir des animaux nouvellement domestiqués. En plus, il y a quand même une certaine saisonnalité qui maintenant n'existe plus, mais à l'époque a existé pendant certainement longtemps. Donc le lait n'était pas disponible toute l'année. Donc encore une fois, un aliment qui n'était pas aussi abondant que ce qu'on a pu imaginer. Alors, il y a des personnes qui ont proposé que le lait a certainement été très important en cas de famine. Donc, il faut toujours penser à des choses qui engendrent de la mortalité pour arriver à des coefficients de sélection aussi forts. Et que peut-être dans les moments de forte disette, vu qu'on était des agriculteurs un peu en herbe, ça a été une ressource très importante pour survivre. Le problème, moi, que je vois par rapport à ça, c'est que le lait est également peu disponible dans les famines, en fait, parce que le bétail dépend directement des céréales que les populations humaines cultivent. Donc, je ne pense pas forcément que ça a été un aliment qui était si intéressant que ça en cas de famine. Du coup, qu'est-ce que le lait contient d'autre ? C'est pas que du sucre, c'est pas que du lactose. Ça contient à 90% de l'eau, ça contient beaucoup de matières grasses, beaucoup de protéines, beaucoup de vitamines et un certain nombre de sels minéraux et d'oligo-éléments. En effet, le lait est censé subvenir aux besoins d'un nouveau-né pendant un certain temps. Donc c'est un aliment qui est très riche et nutritivement, c'est vrai qu'il est très intéressant parce qu'il contient énormément de choses. Donc il y a eu tout un tas d'hypothèses qui ont été réfléchies un petit peu sur des choses qui pouvaient être intéressantes en dehors du sucre. Et notamment la première qui a été proposée très tôt, dès les années 70, et qui est régulièrement débattue depuis, c'est l'hypothèse que le lait a été une source importante de calcium et de vitamine D. Donc l'idée, ça explique à la fois pourquoi ce n'était pas forcément les glucides qui étaient importants, mais aussi pourquoi on voit des fréquences si fortes en Europe du Nord par rapport à l'Europe du Sud. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'hypothèse, c'est que l'alimentation des Européens à la transition néolithique était basée principalement sur des céréales, et donc du coup, c'était une alimentation qui était très déficiente en calcium par rapport à l'alimentation des chasseurs-cueilleurs auparavant. Et quand on rajoute une déficience en calcium dans l'alimentation avec des hautes latitudes où l'ensoleillement est faible, c'est-à-dire où on arrive peu à synthétiser de la vitamine D qui permet de fixer le calcium, on se retrouve un peu avec une double peine de carence en calcium et en vitamine D. Et qu'est-ce qui se passe quand on est carencé en calcium et en vitamine D ? On a un risque important de rachitisme. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qu'on voit dans les squelettes néolithiques. On voit beaucoup de squelettes qui sont en mauvaise santé à cette transition néolithique et notamment qui présentent des signes de rachitisme. Alors le rachitisme, c'est des déformations osseuses qui peuvent être très graves, mais surtout qui incluent des déformations du bassin. Et donc là, on voit tout de suite potentiellement une corrélation avec une forte mortalité, soit des nouveau-nés, soit des mères au moment de l'accouchement. Et donc juste pour rappel, l'adaptation dans les populations humaines pour avoir la peau plus claire par rapport à la pigmentation de la peau, c'est également en lien avec cette interaction régime alimentaire et latitude élevée. En effet, les populations qui ont colonisé l'Europe avaient une couleur de peau foncée, mais elles n'ont pas tout de suite sélectionné des couleurs de peau plus claires. Ça a été réellement, a priori, au moment du néolithique, quand on est en interaction avec un régime alimentaire plus pauvre en calcium, en tout cas c'est l'hypothèse, qu'on voit commencer à apparaître des mutations qui permettent d'avoir une couleur de peau plus claire. Donc bon, l'hypothèse se tient, je vous dirai pourquoi je n'y crois pas trop dans la suite. Une deuxième hypothèse, c'est que le lait a pu constituer une source d'eau non contaminée, puisque donc quand même 90% d'eau, surtout dans des régions désertiques où l'eau n'était pas forcément facilement disponible ou facilement contaminée, donc entraînait des maladies infectieuses. Donc là, ça pouvait être, si on imagine ne pas le stocker à l'air libre pendant trop longtemps, mais le boire directement, une source d'eau non négligeable dans certaines populations. Et enfin, une autre hypothèse proposée plus récemment, en 2012, par Corden et collaborateurs, est que ça aurait pu permettre une résistance au paludisme. Alors j'entends souvent, dès qu'il y a une adaptation, on propose résistance au paludisme de manière un peu systématique. C'est vrai que ça a été une pression de sélection forte chez l'homme. Bon, en tout cas, là, les arguments se tiennent quand même, puisqu'on sait qu'un régime exclusif en lait, que ce soit dans des modèles animaux en laboratoire ou dans les populations humaines, réduisent fortement les infections au plasmodium. Et en fait, ça a été montré que c'est parce que le lait est très pauvre en PABA, qui est un acide au nom imprononçable, que je vais appeler PABA, et en folate, et ces deux éléments permettent la bonne croissance de plasmodium. Et en fait, dans les modèles animaux comme dans les populations humaines, quand on supplémente ensuite l'alimentation en PABA, on abroge les effets protecteurs de cette alimentation exclusive en lait. Alors, bon, certes, il faut que l'alimentation soit exclusive en lait pour qu'il n'y ait pas du tout d'autres sources de PABA et de folate par ailleurs, mais ça peut être une hypothèse intéressante, surtout qu'on sait que les éleveurs peuls sont, entre guillemets, naturellement résistants au paludisme, en tout cas beaucoup plus que leurs voisins agriculteurs, et que jusqu'à maintenant, ce n'était pas clair de comprendre pourquoi ils avaient cette espèce de résistance naturelle par rapport à leurs voisins agriculteurs. Alors, certaines de ces hypothèses ont été testées, notamment les deux premières en 1997 ont été testées par Holden et Mays, qui ont testé le pastoralisme, le niveau d'ensoleillement et les niveaux de sécheresse. Et je vous la fais courte, en gros, il n'y avait que le pastoralisme qui expliquait significativement les variations de persistance de la lactase. Plus récemment, le papier de Iten en 2009 que je vous ai présenté montrait qu'il n'y avait pas d'évidence pour des coefficients de sélection plus forts en Europe du Nord par rapport à l'Europe du Sud, mais qu'en fait, une sélection homogène avec des effets démographiques suffisait largement à expliquer pourquoi la mutation avait augmenté en fréquence par démographie, par effet de migration en Europe du Nord. Donc, bon, a priori, pas complètement convaincu par les données, mais j'ai aussi pas mal d'autres arguments qui me font dire que je ne suis pas complètement convaincue. Parce qu'en fait, il faut bien se rendre compte que là, ce dont on parle, c'est des avantages nutritifs du lait qui ne sont pas les glucides, qui sont tout le reste de ce qu'il y a dans le lait. Donc le calcium, par exemple, n'importe qui peut en bénéficier, quelqu'un qui est lactase persistant comme quelqu'un qui n'est pas lactase persistant. Donc pour expliquer pourquoi seuls les lactases persistants arrivent à avoir un bienfait du calcium, en fait, il faut considérer qu'il y a des symptômes très importants chez les individus lactases persistants, typiquement des diarrhées. On sait que les diarrhées sont souvent associées à de la mortalité forte, surtout infantile. Et donc, en fait, toutes ces hypothèses, je ne vous l'ai pas expliqué dans le détail, mais toutes ces hypothèses disent que tout le monde peut avoir accès au lait et au calcium, mais seuls les individus lactases persistants peuvent le consommer sans avoir donc un risque de mortalité associé notamment aux diarrhées. Le problème, c'est que ces diarrhées, on les connaît effectivement quand on donne 50 g de lactose à jeun, ce qui correspond à quand même une très forte quantité de lactose. Et tous les gastro-entérologues et les pédiatres disent que si on boit un verre de lait le long de la journée de temps en temps, on peut très bien aller jusqu'à 1 litre de lait par jour sans avoir de symptômes qui sont très forts. Surtout si on ne le boit pas à jeun, mais au contraire associé à d'autres aliments pour réduire le temps de transit et faire que le lactose arrive progressivement dans le côlon et ne crée pas ce choc osmotique dont je vous ai parlé qui entraîne la diarrhée. Donc a priori, moi je pense que c'est tout à fait possible de consommer du lait et donc d'avoir un apport en calcium ou un régime ou de l'eau notamment, sans nécessairement avoir des diarrhées importantes. L'autre chose, c'est qu'il y a également possibilité d'avoir les bactéries intestinales qui s'adaptent pour réduire les symptômes, comme je vous l'ai dit, et qui est un peu ce qu'on voit dans les données, dans certaines populations africaines, où les individus lactase non persistants ne présentent pas particulièrement de symptômes. Pour l'instant, ça reste de l'ordre de l'hypothèse, mais on imagine que c'est une adaptation de la flore intestinale. Et enfin, la troisième chose, c'est que le calcium est également disponible, par exemple, dans les produits laitiers. Et les produits laitiers, il y en a plein qui sont faibles en lactose, donc il n'y a pas forcément besoin de consommer un aliment qui est riche en lactose pour avoir un apport de calcium. En effet, donc on sait transformer le lait de plein de manières différentes. Je vous fais rapidement un petit peu une overview. Donc on peut en faire du fromage, qui consiste à faire coaguler le lait par caillage et ensuite l'égoutter. Donc là, on a une coagulation de la partie solide qui va être des protéines et de la matière grasse, où il reste très peu de lactose. Et à l'inverse, on égoutte ce qu'on appelle le petit lait, qui est de l'eau très riche en lactose, pour le coup, et en d'autres types de protéines solubles, les séroprotéines. On peut également avoir une séparation physique de la partie grasse du lait, donc juste en laissant décanter, en récupérant en écrémant, et ensuite, soit en barattant, soit en fermentant, on obtient du beurre ou de la crème, et là, il n'y a quasiment plus du tout de lactose. Le yaourt est intéressant comme situation parce qu'il est fermenté par des bactéries. Pour avoir l'appellation yaourt, il faut être fermenté par Lactobacillus bulgaricus et Streptococcus thermophilus. Mais en fait, le yaourt contient encore pas mal de lactose, 4 grammes. Juste pour information, le lait frais, c'est 5 grammes pour 100 grammes. Donc, il y a un peu de lactose qui est transformé, mais il y a encore pas mal de lactose. Par contre, ce qui est intéressant avec le yaourt, ce dont je me suis rendu compte en étudiant un peu tout ça, c'est que le yaourt est beaucoup plus digestible que le lait frais. Donc ici, je vous montre l'augmentation en hydrogène attendue pour des individus lactase non persistants. Donc en gros, est-ce qu'on retrouve du lactose dans le côlon ? Et ce qu'on voit, c'est que si on boit du lait ou qu'on prend de la poudre de lactose ou de la poudre de lactulose, qui est la même chose, mais quand on a chauffé le lait dans différentes quantités, on a effectivement cette augmentation en hydrogène comme attendu. Mais chez ces mêmes individus, donc pas de changement de flore intestinale, et les mêmes individus non persistants, s'ils consomment du yaourt en deux quantités différentes, en fait, il n'y a pas vraiment d'augmentation de H2. Et la raison, c'est que quand on consomme du yaourt, on mange le lactose du yaourt, mais on mange aussi les bactéries vivantes qui savent fermenter le lactose. Et du coup, ça a été proposé que les yaourts constituent en fait une source de glucides, même pour les individus qui sont lactase non persistants. Donc reste à quantifier réellement combien de glucides les individus sont capables de dériver, parce qu'il est possible que le glucose qui soit obtenu par les bactéries soit tout de suite consommé par les bactéries elles-mêmes. Mais en tout cas, à ma connaissance, il n'y a pas eu de test de glucose sur ces individus-là. Mais il y a la possibilité que ce type de produit laitier puisse quand même apporter du sucre aux individus lactase non persistants. Donc puisse être très intéressant. Donc une possibilité par rapport à tout ça, c'est peut-être qu'en fait les populations ne savaient pas transformer le lait à l'origine. Peut-être qu'elles ont bu du lait frais pendant très longtemps parce qu'elles ne savaient pas faire du fromage ou du yaourt. En tout cas, c'est une hypothèse qu'on peut proposer. Alors quand on regarde les données qui nous permettent de savoir si les populations, depuis quand les populations utilisent du lait, donc d'abord uniquement utilisent du lait, parce que ce que je vous ai montré c'était les dates de domestication des animaux, mais ça a été aussi débattu, est-ce qu'on a tout de suite ou pas utilisé le lait des animaux ? Donc il y a trois choses qu'on peut regarder pour savoir si les populations utilisent le lait. La première, c'est les profils d'abattage. Donc on regarde en gros les sexes qui se retrouvent, qui ont été abattus, et les profils d'âge. Et donc ça, ça peut nous indiquer si on est dans des élevages de type à lait ou des élevages à viande. Et donc Jean-Denis Vigne a fait une très belle synthèse en 2012 et nous montre que dès 9500 BP, donc avant aujourd'hui, en Méditerranée, on a des profils d'abattage compatibles avec un élevage à lait pour la brebis et la chèvre. Un peu plus tard, à 8000 BP, on a également les mêmes types d'indications pour des bovins en Europe de l'Ouest. Alors, il y a peut-être eu un petit décalage entre chèvres, brebis et bovins, étant donné la taille des animaux, surtout des aurochs, au moment de la domestication. Mais en tout cas, il y a eu une utilisation du lait très rapide après la domestication. Souvent, ce sont des élevages mixtes, mais il y a aussi certains cas d'élevage, a priori, à lait exclusif, donc des profils d'abattage compatibles uniquement avec une utilisation pour leur lait. La deuxième manière de savoir si on a utilisé du lait, c'est de regarder dans toutes les poteries disponibles, donc dans tous les contenants, toutes les jarres qu'on retrouve, quels étaient les types d'aliments qu'on peut retrouver à l'intérieur qui ont été stockés. Et en fait, ici, ce que je vous montre, c'est donc des traces isotopiques qui permettent de distinguer en haut si c'est de la graisse de cochon, au milieu si c'est de la graisse de ruminant mais venant de la viande, et en bas si c'est de la graisse de ruminant mais venant du lait. Et on voit que ça ne se... Enfin, je ne sais pas si vous voyez, mais ça ne se chevauche pas. Donc, on arrive vraiment bien à discriminer est-ce que les traces d'acide gras sur les poteries sont plutôt de type viande ou de type lait. Et là, par exemple, dans cette poterie, on voit que c'est mixte. Il y a eu quand même beaucoup d'éléments qui sont plutôt compatibles avec du lait, mais aussi quelques-uns compatibles avec de la viande. Et donc, les résultats sont synthétisés ici. On a des traces de produits laitiers sur les poteries dès 9000 BP en Europe du Sud et au Proche-Orient, dès 8000 BP en Europe de l'Est, dès 7000 en Afrique subsaharienne et dès 5500 en Asie centrale. Donc, ce que ça nous dit également, c'est qu'a priori, il n'y a pas eu d'utilisation du lait plus tardive en Europe méditerranéenne par rapport à l'Europe du Nord, qui pourrait expliquer les différences de prévalence. Et donc, cette date ici en Asie centrale, c'est la date qui a été associée à la première utilisation du lait de cheval au nord du Kazakhstan dans la culture Botaï. Et enfin, une troisième manière de regarder ça, c'est de regarder directement dans le tartre ancien, est-ce qu'on retrouve des protéines du lait, des séroprotéines. Et en plus, en faisant cette protomique, on peut même savoir en fait, de quelle espèce il s'agit, puisque les protéines diffèrent entre grandes familles d'animaux. Et donc là également, ça nous montre que dès 5000 BP, on a une trace de protéines de lait dans le tartre des individus en Europe et en Anatolie. Là, évidemment, c'est plus rare d'avoir des dents bien préservées d'humains que d'avoir des traces de céramique et de poterie, donc ça, c'est beaucoup plus informatif. Mais là, en ce moment, ce genre d'étude est en train de se développer pour être testée plus largement. Alors, qu'en est-il de produits laitiers, fromage, yaourt et autres ? Cette culture rubanée là, dont je vous ai parlé, qui est la migration des agriculteurs du Proche-Orient vers l'Europe, est associée à tout un tas de poteries en forme de faisselle qui a longtemps été supposée être utilisée pour faire du fromage, puisque justement on coagule les protéines et la matière grasse et qu'on laisse s'égoutter le petit lait. Donc maintenant, en 2013, ça a été confirmé effectivement que les résidus à l'intérieur de ces poteries sont compatibles avec une utilisation spécifiquement en fromage. Évidemment, on ne pourrait pas stocker du lait frais vu les petits trous qui sont dedans. Donc, a priori, ça nous montre qu'il y avait déjà une fermentation, une coagulation possible des produits laitiers assez tôt, puisque toutes ces faisselles se retrouvent en Anatolie et en Europe dès 8000-9000 BP. Et également, j'ai trouvé un papier qui trouve des traces de kéfir ancien associé à des restes de momies d'éleveurs de vaches en Chine il y a 4000 ans. Et donc, le kéfir, c'est une sorte de lait fermenté, mais comme du yaourt, sauf que c'est bactéries plus levure, pas que des bactéries. Donc, encore une fois, que ce soit en Europe ou en Asie de l'Est, on voit des traces de transformation des produits laitiers qui me font penser qu'a priori, dès qu'on a eu du lait, dès qu'on a eu des animaux, on a utilisé le lait, dès qu'on a eu du lait, on l'a transformé de plusieurs manières que ce soit. Alors, c'est d'autant plus surprenant le fait qu'on sache faire tous ces produits laitiers qui étaient faibles, potentiellement faibles en lactose, comme le fromage, quand on réfléchit un petit peu au temps qu'il faut pour s'adapter génétiquement. Donc là, si vous regardez que ces lignes, en fait, et pas encore les carrés de couleurs, ça vous montre la trajectoire évolutive théorique, donc l'augmentation en fréquence de la mutation associée à la persistance de la lactase, sous des scénarios de coefficient de sélection de 3, 4 ou 5%, et atteignant des fréquences de 50 ou 60% qui correspondent à des fréquences de persistance de la lactase de 75 à 80%, vu que c'est une mutation récessive, et donc compatible avec la fréquence dans les populations européennes. Et donc là, ce que vous voyez par exemple facilement, c'est que pour passer de 10% à 60%, il faut quand même déjà attendre 2000 ans. Mais ce que vous voyez peut-être moins bien, et ce à quoi on pense moins, c'est que pour passer de zéro, c'est-à-dire de la première mutation qui arrive, à une mutation à fréquence de 10%, il faut quand même attendre environ 4000 ans. Donc ce n'est pas négligeable, il faut attendre une longue période de temps avant que les populations réellement puissent être lactase persistante et même encore en minorité, et donc réellement avoir un avantage en fait, à utiliser le lait et les produits laitiers. Donc il y a une longue période de maladaptation. Ce que je voulais également vous montrer, c'est les données. Donc là, ce n'est plus les théories, c'est réellement le séquençage d'ADN ancien. Et donc les prévalences qui ont été, les fréquences qui ont été calculées sur les données d'ADN ancien, avec la taille des carrés qui correspond au nombre d'individus, donc ici très peu, ici beaucoup plus, et en couleur la région d'Europe dans laquelle ça a été obtenu. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'on ne trouve pas d'évidence, donc là c'est souvent qu'un individu, donc vous le voyez mal, mais il y a eu pas mal de... Enfin, ils ont quand même essayé de regarder sur toute la période néolithique et on n'a jamais rien trouvé en termes d'allèles de persistance de la lactase. Et puis d'un coup, bon, on va d'abord regarder le reste, ça augmente quand même relativement progressivement. Jusqu'ici, on est donc au Moyen-Âge avec des fréquences quand même très variables, hein, entre 10 et 60%, mais où on commence progressivement, si on suit les points verts en Europe centrale, à augmenter. En fait, ce qui est un peu plus étonnant, c'est ce point ici, orange, qui à 5000 BP, donc en plein âge du bronze, arrive directement à 27% en fréquence, alors qu'on s'attend à quelque chose de plus progressif et que tout ce qui a été regardé auparavant était nul en fréquence. Et en fait, le fait qu'en Europe, on voit rien, puis boum, une fréquence qui est quand même légèrement importante, ça peut favoriser la deuxième hypothèse pour savoir comment la mutation est arrivée en Europe, qui est la migration à partir des Yamnaya. Donc la première hypothèse, je vous l'ai présentée, c'était la mutation serait arrivée par migration des agriculteurs du Proche-Orient, c'est ce petit 1, hop, qui vient coloniser l'Europe, et comme David Reich nous l'a montré, qui a remplacé environ, je crois que les chiffres, c'était 70%, 80% des individus. Mais effectivement, les chasseurs-cueilleurs européens se sont fait remplacer d'abord fortement par ces agriculteurs du Proche-Orient, mais ensuite, également comme David Reich nous en a parlé, il y a eu cette migration Yamnaya, qui sont des éleveurs de steppe, de la steppe pontique, ici en vert, qui ont également re-remplacer de nouveau les populations européennes. Et eux, ils arrivent pile à 5000 BP. Donc quand on voit qu'il y a une mutation qui arrive en prévalence relativement importante pile à ce moment-là, ça va plutôt donc dans le sens d'une mutation qui est arrivée avec la migration des steppes Yamnaya. Alors ici, ce que vous voyez, c'est donc l'aire de répartition de ces éleveurs de steppe, les Yamnaya. Et d'ailleurs, oui, je voulais juste vous dire en passant aussi que, comme David Reich nous l'a encore montré, ces Yamnaya sont également redescendus pour arriver en Inde. Et que, comme par hasard, c'est également ici qu'on retrouve la mutation 13910. En fait, les deux endroits où on retrouve la mutation 13910 très fortement en fréquence, c'est là où les Yamnaya ont laissé le plus de descendants, à savoir en Europe et dans l'Inde du Nord. Donc moi, je pense que c'est quand même assez probable que ce soit cette hypothèse qui soit la bonne. Cependant, il y a quelque chose quand même qui me chiffonne un peu, c'est que tous ces éleveurs des steppes, les Yamnaya à l'époque, donc si c'est eux qui ont sélectionné la mutation, et comme on n'a jamais regardé trop là-bas, on ne sait pas trop si à l'époque elle était déjà présente, mais encore une fois, donc la question que j'ai posée tout à l'heure, qu'en est-il des populations des steppes actuelles? Si c'est dans ces populations des steppes qu'elle a été sélectionnée, pourquoi on ne voit rien aujourd'hui? Puisqu'on sait qu'il y a énormément de populations d'éleveurs dans les steppes d'Asie centrale, donc ici je vous montre quelques photos de Kirghiz et de Kazakh, ils ont des élevages mixtes, il y en a qui sont aujourd'hui beaucoup des élevages de chevaux, notamment on pense aux Mongols et aux Kirghiz, mais il y a quand même un élevage qui est beaucoup plus mixte avec aujourd'hui de la vache, de la chèvre, du mouton, du yak même et du chameau en Mongolie, donc quelque chose quand même d'assez patchwork. Et donc, les seules données qu'on avait disponibles à l'époque, c'était ces deux points que je vous avais montrés sur le graphe, qui étaient des Mongols et des Kazakhs qui vivaient en Chine. Mais peut-être qu'ils étaient un peu moins persistants de la lactase du fait qu'ils étaient en Chine et s'étaient peut-être déjà métissés avec d'autres gens non-éleveurs. Donc, sur la base de ces questionnements, Evelyne Heyer, ma directrice de thèse à l'époque, et moi-même, on s'est intéressés à ces questions. Et Evelyne a mis en place une mission de terrain. Et ici, on voit quelqu'un qui est en train de faire un test de glucose après une charge de lactose. Et donc, ce qu'on a pu montrer, c'est déjà de 1 que les populations de Kazakhs ont effectivement 25% de persistance de la lactase, donc compatible et cohérent avec l'étude de 1984. La deuxième chose, c'est qu'ils ont également cette mutation européenne ou indienne, en fait, cette mutation eurasiatique, 13910, qu'on retrouve donc du coup maintenant dans toute l'Eurasie, sans exception, et ils n'ont aucune autre mutation associée. Donc ça m'a permis, du coup, moi, avec Sophie Lafosse et d'autres laboratoires, de tester dans 900 individus, dans 27 populations, quelle était la fréquence de cette mutation. Et donc on a testé des populations d'éleveurs, mongols, kirghizes, des populations de chasseurs-cueilleurs sibériens et des populations aussi d'agriculteurs en Ouzbékistan. Et ce qu'on voit, c'est que la fréquence, elle est de 15% en moyenne, donc toujours pas très élevée. Et surtout, il n'y a pas de différence significative entre qu'on soit chasseur-cueilleur, éleveur ou agriculteur. Tout le monde a à peu près une prévalence moyenne. Il n'y a pas de population comme ça qui ont des prévalences très fortes. Donc c'est quand même assez surprenant. Donc je vous montre ici ça juste d'un point de vue visuel. C'est toutes ces populations ici. On n'a jamais échantillonné au Kazakhstan, mais il y a pas mal de populations kazakhes ici. Et ces populations sibériennes et mongoles ici. Ok, donc en réalité, il n'y a personne qui est persistant à la lactase dans toute cette région du monde, a priori, qu'on sache. Donc je me suis demandé, est-ce que c'était parce que ces éleveurs sont des éleveurs de chevaux? Peut-être que le fait de boire du lait de cheval a quelque chose de différent par rapport aux autres laits des autres animaux. Et donc ici, lait de jument, on voit la quantité de protéines, de graisse et de lactose. Et ce qu'on voit, c'est que non, au contraire, le lait de jument est très riche en lactose. À vrai dire, c'est un des plus riches. Il est quasiment aussi riche que le lait humain, qui est lui particulièrement riche en lactose, mais donc plus que le lait de vache, de mouton, de chèvre, etc. Donc c'est pas parce que c'est un lait pauvre en lactose, comme par exemple c'est le cas pour le renne, et qui explique en partie pourquoi les éleveurs de renne ne sont pas particulièrement persistants à la lactase. Mais une propriété intéressante du fait que ce lait soit si sucré, c'est qu'il fermente spontanément. En fait, il est tellement sucré qu'il n'y a pas besoin d'attendre très longtemps pour qu'il fermente par des bactéries et levures. Et d'ailleurs, actuellement, le lait de jument n'est bu que fermenté. Donc ça s'appelle Ayrag en Mongolie ou Koumis au Kyrgyzstan et dans d'autres pays d'Asie centrale. Et donc, bon, bien qu'il soit fermenté, c'est la même chose que pour le yaourt, il contient quand même un certain nombre de lactose, ça a été estimé à 5,5 grammes, mais peut-être qu'on peut poser l'hypothèse que, comme le yaourt, si on boit ce lait de jument fermenté, on boit à la fois le lactose et les bactéries intestinales qui permettent de le digérer, et qu'on peut quand même avoir un apport de sucre avec cette boisson. Hypothèse. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du lait de jument, on ne peut rien faire d'autre. On ne peut pas faire de fromage ni de yaourt, parce qu'effectivement, du coup, les teneurs en protéines et en matières grasses sont tellement faibles par rapport au lactose que, enfin, a priori, à ma connaissance, personne n'a jamais rien fait d'autre avec du lait de jument. Cependant, comme je vous l'ai dit, les éleveurs actuellement ne sont pas que des éleveurs de chevaux, il y a tout un tas d'éleveurs dans la région, et du coup, ça m'a amené à me demander mais quelle est réellement l'origine génétique de ces populations d'Asie centrale, qui est une question sur laquelle le laboratoire travaille depuis longtemps, mais particulièrement qui commence à me démanger avec cette question de persistance de la lactase. Est-ce que ce sont des descendants, comme je le pensais au début, de la culture Botaï d'éleveurs de chevaux il y a 5500 ans ? Puisqu'ils sont un peu plus proches, vu que c'est des éleveurs de chevaux, et qu'en plus, c'était une culture au nord du Kazakhstan. Est-ce que ça peut être des descendants des Yamnaya, qui étaient quand même aussi dans le coin, et je voulais montrer qu'ils avaient une aire de répartition quand même assez large, qui ont émergé à peu près au même moment, il y a 5000 ans, et qui étaient plutôt des éleveurs mixtes, vaches, chèvres et moutons, ou est-ce qu'ils dérivent d'autres populations ? Donc je vais vous faire une synthèse, mais alors rapide, de 5000 ans d'histoire que j'ai essayé de vous faire le mieux possible. Donc en gros, il y a 5000 ans, qu'est-ce qui se passe ? On a cette culture Botaï ici, qui n'est pas très grande. Hein, donc domestication du cheval, harnachement du cheval, utilisation du lait de cheval au nord Kazakhstan. Et à côté, pas très loin, on a ces fameux Yamnaya dans leur phase précoce, qui sont dans toute la steppe pontique, qui en réalité donc, vont migrer en Europe, je vous l'ai montré, migrent en Inde, mais migrent aussi en Asie de l'Est et donnent cette culture Afanassievo. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne se sont pas du tout mélangés avec les Botaï. Ils ont vraiment sauté au-dessus des Botaï. Il n'y a aucune interaction génétique entre ces deux groupes, alors qu'ils étaient proches et chacun avait des modes de vie quand même pasteurs nomades. 1000 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, la culture Botaï a disparu. Et en fait, ce sont les descendants des Yamnaya qui ont migré vers l'Est, qui sont toujours des éleveurs nomades des steppes, qui donnent toutes ces cultures, Andronovo, Karasuk et j'en passe, qui se sont établis dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'Asie centrale, mais qui ne sont toujours pas des éleveurs qui consomment le lait de cheval. A priori, dans les traces archéologiques, ils avaient des chevaux, mais ils consommaient que du lait de vache, de mouton et de brebis. Donc il y a cette espèce de déplacement des cultures Yamnaya vers l'Est qui a remplacé la culture Botaï. 500 ans plus tard, ce qui se passe, c'est la transition locale de chasseurs-cueilleurs sibériens vers des éleveurs de chevaux mongols. Et en fait, a priori, c'est plutôt de ce mode de vie-là que dérivent les éleveurs d'Asie centrale contemporains. Donc en fait, ça a été une transition de la chasse et de la cueillette vers l'élevage en Mongolie à partir de chasseurs-cueilleurs sibériens qui, eux, n'avaient rien à voir avec les Yamnaya. Et ensuite, pendant les 2000 ans qu'on suivit, donc entre 0 et aujourd'hui, ça a été une vague de migrations successives plutôt dans l'autre sens, vers l'ouest, avec la migration d'abord des Jiongnu, qui sont donc des éleveurs nomades qui descendent de cette transition vers les éleveurs de chevaux en Mongolie, qui sont allés jusqu'aux portes de l'Europe. Les Huns ont refait la même chose, Genghis Khan a refait la même chose, et donc à chaque fois, on recolonisait ces espaces ici de steppe qui semblent ne plus être occupés par des éventuels descendants des cultures Yamnaya. Donc là, juste, je vous résume tout ce que je viens de vous dire dans une jolie figure d'un papier où le laboratoire a contribué en 2018. Donc l'expansion des Yamnaya vers l'ouest et l'est, ensuite l'expansion des Andronovo qui prennent beaucoup de place donc, dans les steppes d'Asie centrale, les sites dont je ne vous ai pas parlé, mais qui sont en gros leurs descendants et qui vont se mélanger avec les chasseurs-cueilleurs sibériens à l'est, avec les agriculteurs européens à l'ouest. Donc là, il y a un peu de mélange effectivement avec tout le monde. Puis, dans les deux derniers millénaires, des migrations vers l'ouest très fortes de populations nomades d'éleveurs de chevaux. Donc, c'est une région qui est quand même une région de forte migration avec, a priori, pas forcément une grande continuité génétique. Donc, pour conclure, La persistance de la lactase, c'est un cas de sélection naturelle très forte. Elle a eu lieu dans différents environnements, dans différentes populations, a priori clairement depuis le néolithique. Et ce, malgré l'existence de produits laitiers a priori assez précoces, le fait que les yaourts apportent potentiellement des glucides à moindre coût. Donc, en conclusion, on peut dire que le lait frais a effectivement permis aux individus de mieux survivre et que ce n'est pas encore clair quelle est la nature des pressions de sélection. Pour reprendre un petit peu par rapport au cours de la semaine dernière, ici, donc, il s'agit d'un balayage sélectif classique et d'une architecture complètement monogénique en Eurasie, en Arabie et dans certaines populations africaines. Par contre, en Afrique de l'Est, on a le pattern complètement opposé avec une architecture polygénique, une sélection polygénique, une augmentation beaucoup moins importante en fréquence de plusieurs allèles et une diversité accrue et pas du tout une diversité réduite. A priori, on a une sélection sur des mutations de novo, puisqu'elles elles préexistaient pas à toutes ces populations. Elles sont arrivées une fois que les populations sont différenciées. Et donc, c'est une évolution vers un gain de fonction de manière convergente, impliquant au moins dans un cas des changements épigénétiques. En Afrique et en Arabie, on a une très bonne corrélation avec le pastoralisme. Donc, ça pourrait être uniquement du fait que c'est un apport de glucides, ça pourrait être du fait que c'est un apport d'eau, ça pourrait être du fait que ça apporte une résistance au paludisme. Moi, je laisse toutes les options ouvertes. En Europe, on a des fréquences qui sont étonnamment fortes, malgré un mode de vie agro-pastoral, le fait qu'on s'est transformé en produit laitier de manière homogène en Europe est assez précoce, et des fréquences plus fortes dans le Nord, qui pourraient être expliquées par une pression de sélection supplémentaire liée au rachitisme, mais pour l'instant, pour moi, qui ne trouve pas encore de preuves réellement dans les données. Ça pourrait être également des différences de pratiques, avec les populations au nord qui consomment plus de lait frais et au sud plus de lait transformé, ce qui est un peu ce qu'on voit dans les données actuelles. Une grande transformation dans le pourtour méditerranéen en yaourt et en fromage, alors que dans l'Europe du Nord, c'est majoritairement du lait frais. Donc c'est possible que ce soit des différences culturelles qui soient à l'origine de ces différences de fréquence. Ou alors, comme je vous l'ai montré, peut-être que si on pense que c'est les Yamnaya qui ont apporté cette mutation, les Yamnaya n'ont pas laissé de descendance génétique de manière homogène en Europe. Et il semble assez probable qu'ils en ont laissé plus dans le nord que dans le sud, mais ça restera plus précisément à quantifier. En tout cas, ce qui me paraît clair, c'est que ces individus ont adopté les produits laitiers pendant des milliers d'années, alors qu'ils n'étaient pas lactase persistants. Donc, ils ont certainement, même si ça a entraîné beaucoup de symptômes, en tout cas, ils ont eu un certain nombre de milliers d'années de maladaptation. Ou pas, si d'ailleurs, il n'y avait pas de symptômes, mais a priori, il y en avait. En Asie centrale, on a des fréquences faibles, malgré un mode de vie actuellement fortement pastoral. Donc, je vous l'ai dit, du lait de jument que fermenté, et puis du lait de vache incorporé frais au thé, chauffé mais frais, et transformé. La culture bouteille ne semble pas avoir laissé de descendants. C'est une région qui est assez complexe en termes de migration. Et les populations d'éleveurs contemporaines semblent en tout cas issues d'un mélange entre éleveurs de l'Ouest, qui consommaient du lait de vache, de chèvre et de mouton dès 5000 BP, et des éleveurs de l'Est, qu'on sait qu'ils consommaient du lait de chevaux dès 3500 BP. En tout cas, ce qui est étonnant, c'est que même s'il n'y a pas eu de continuité génétique, c'est quand même des descendants de populations d'éleveurs nomades. Donc il n'y a pas forcément de raison, même si c'est des métissages complexes entre Est et Ouest, qu'ils n'aient pas eu cette même pression de sélection par rapport aux autres populations. Peut-être que le phénotype est toujours sous pression de sélection. Si on considère qu'il a commencé à être fortement sélectionné il y a 3500 ans avec cette transition de la chasse et de la cueillette vers l'élevage de chevaux en Mongolie, finalement, en 3500 ans, je vous ai dit qu'on arrivait uniquement à 10% en fréquence. On est à peu près à 15% en fréquence, donc peut-être que simplement, ça a été un petit peu décalé par rapport aux autres. Et donc, une possibilité, c'est qu'il n'y ait pas eu le temps d'avoir ces derniers 2000 ans où la fréquence augmente énormément en fréquence. La deuxième possibilité, je vous l'ai dit, c'est peut-être qu'ils avaient une consommation de produits particulièrement fermentés. On l'a vu le kéfir il y a 4000 ans, déjà du lait fermenté. Aujourd'hui, beaucoup de boissons fermentées qui peuvent permettre de diminuer les symptômes à travers une adaptation du microbiote intestinal, mais aussi potentiellement de constituer un apport en glucides. Voilà, il y a plein d'autres choses dont j'aurais pu vous parler, en plus de tout ça, mais je vais m'arrêter là, puisque ça fait déjà un bout de temps. Et donc, je vais remercier les gens avec qui j'ai travaillé un peu sur ces questions, et je suis disponible pour répondre à vos questions.